aux quelques questions qui ont été posées la dernière fois. Et la dernière fois, c'est déjà assez loin.
Mon père, la première question concerne ce que vous aviez dit au sujet de la philosophie moderne la fois dernière. On sait qu'elle s'est développée dans le sens de, en ce qui concerne la personne humaine, en insistant sur le « je suis » de l'homme. Or, vous nous dites que la découverte métaphysique de l'existence de Dieu ne peut se faire qu'à partir de la personne humaine. Et on ferait pose la question suivante. Faire appel à l'expérience de la personne humaine pour découvrir l'existence de Dieu, est-ce une nécessité d'ordre pédagogique à cause du climat moderne ou est-ce une nécessité d'ordre philosophique?
Si on avait le sens métaphysique de l'être, comme au Moyen-Âge, il est sûr que c'est par le point de vue du jugement d'existence, c'est par le point de vue de l'être que nous découvrons l'être premier. Ça, c'est sûr. Mais au fond, notre regard métaphysique, la plupart du temps, est très faible, pour ne pas dire inexistant. Pas pour vous, mais en dehors, quand on voit ce qu'ils disent. Et de lire certaines choses, on voit très bien que c'est très à côté. Bon, ils répètent ça comme une chose qu'on doit dire. Or, la philosophie, c'est pas une chose qu'on doit dire. On ne fait pas de la philosophie en étant obéissant à l'Église. La métaphysique, c'est l'intelligence qui doit par elle-même s'éveiller. Mais des quantités aujourd'hui, hélas, ne s'éveillent pas au niveau métaphysique. Ils sont très éveillés au niveau, mathématique. Ils n'en peuvent rien. Hein. Le climat est comme ça. Le climat est un éveil mathématique très fort qui, la plupart du temps, est tellement fort qu'il ne voit plus que ça. Et ça, c'est le thermomètre de la culture d'aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est net. Quand vous regardez comment on veut faire l'école commune, et les programmes de l'école commune ne sont pas précisément un cours de métaphysique à partir de 17 ans. Alors, vu que nous sommes actuellement, je fais de la philosophie pour l'homme d'aujourd'hui et non pas pour l'homme de Moyen-Âge. Ma philosophie doit donc répondre à tout ce développement qui a eu très intense depuis Descartes, depuis Locke, depuis Kant. Il faut qu'en face d'un Kantien, je puis lui montrer un chemin philosophique qui l'amène à Dieu. Et ceci, c'est pas apologétique, c'est tout simplement tâter le pouls actuel. Comprendre ce qu'est un homme d'aujourd'hui qui s'est formé à la philosophie uniquement avec Kant. Et si ma philosophie est absolument incapable de l'atteindre, il y a quelque chose qui manque. Je dois pouvoir, vis-à-vis de cet homme-là, tout de suite lui faire comprendre que Kant est une vision très spéciale et que sa véritable vision à lui est beaucoup plus large. Faire dire la même chose pour Descartes et pour Locke. Vous voyez ? Ça, je dirais, c'est tout simplement parce que on est vivant intellectuellement à cette époque-ci. Ma philosophie n'est pas un retour au Moyen-Âge. Je considère que ce que le Moyen-Âge a dit de très profond, ce que Aristote a dit très profond, est actuel. Mon intelligence humaine n'a pas changé. Mon intelligence humaine depuis Aristote n'a pas changé. Alors, si je pense que mon intelligence humaine est tout à fait autre, alors, j'aurai une première préparation à montrer que son intelligence est restée la même, on le voit par le langage. S'il est chrétien, on le voit aussi par le baptême. Le baptême est le même au Moyen-Âge et aujourd'hui. Or, si l'intelligence humaine n'était plus la même, l'Église ne serait plus dans la vérité si elle maintenait à tout prix un baptême qui est le même. Ceci, c'est un argument pour les chrétiens, c'est-à-dire pour nous. Quand on se met à douter, on se dit, mais après tout, ça a changé tellement. Votre métaphysique, elle, c'est bien pour Aristote, mais êtes-vous chrétien ? Elle était vraie pour un chrétien du Moyen-Âge. Elle était vraie pour un chrétien qui suivait le Christ. Et à ce point de vue-là, notre vie chrétienne maintient quelque chose de fondamental en nous. La foi n'a pas changé. Alors, distinguons bien comment le développement de la personne en philosophie nous permet de nous approcher dans l'ordre de la disposition beaucoup plus du mystère de Dieu que par le point de vue de la nature. Et je vous poserai la question, et vous devez vous la poser. Est-ce que j'atteins plus facilement Dieu par la nature ou par la personne ? Bon, vous pouvez développer et essayer de comprendre ce qu'est la personne. Est-ce que ça ne vous met pas dans une disposition plus parfaite pour affirmer l'existence de Dieu ? Et posez-vous la question, au point de vue philosophique. Et donnez des raisons. Parce que ça, vous pouvez être peut-être beaucoup plus sensible à la nature qu'à la personne. Normalement, dans notre monde d'aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible à tout ce qui est personnel que ce qui est naturel. Est-ce un défaut? Ou est-ce tout simplement un phénomène de culture qui a développé énormément pour nous ce qu'est la personne? Je crois que c'est une question qu'on doit se poser. On n'a pas le droit de ne pas se la poser. Parce que nous sommes responsables, en tant qu'apôtres, de la foi de nos contemporains. Et donc, on doit comprendre le bain dans lequel se trouve. Quelle est la chaleur du bain? Si vous leur présentez un bain qui est beaucoup trop chaud pour eux, ils ne comprendront rien. Il faut savoir, comprendre, est-ce que la mentalité des personnes d'aujourd'hui, des savants, est-ce que le développement de la personne ne me met pas plus proche de ce qui, en eux, peut découvrir l'existence de Dieu? Donc, oui, là, c'est pas moi qui dois répondre, hein, c'est vous. Je réponds pour moi, mais je réponds pas pour vous. Et si vous n'avez pas fait cela, alors, le problème de l'existence de Dieu se pose différemment aujourd'hui et du temps de saint Thomas et du temps de saint Augustin. C'est d'ordre apologétique, ça. Non, c'est pas d'ordre apologétique, c'est de l'ordre de la disposition. C'est de l'ordre de la culture, si vous voulez. Nous sommes une culture aujourd'hui qui est une culture très personnaliste et non plus une culture très naturelle. Il suffit du reste de regarder le nouveau mouvement des jeunes d'aujourd'hui pour savoir que si vous vous mettez à vous parler de la personne, foot, ils s'en vont. Si vous parlez de la nature, je veux dire, ils s'en vont. Si vous leur parlez de la personne, ah, ça les intéresse. Et ça, c'est chacun d'entre vous qui devait tâter le pouls de la culture d'aujourd'hui, de la culture dans laquelle vous êtes. Y a-t-il une différence là entre un Américain et un Européen? Je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas beaucoup. Je crois qu'au fond, c'est le même problème pour tous les hommes. C'est le problème de la modernité, c'est le problème du changement profond qu'il y a dans la culture humaine. Ça, on est bien obligé de l'accepter. La formation du Moyen-Âge de l'homme est toute différente de la formation de l'homme d'aujourd'hui. Alors, si on ne tient pas compte de ça, notre métaphysique risque d'être complètement en dehors. On va dans la lune. On sait que la métaphysique touche quelque chose qui ne bouge pas. Mais il faut comprendre, est-ce que les hommes d'aujourd'hui sont capables de l'atteindre? C'est deux problèmes différents. Il y a un problème philosophique d'un côté et un problème de communication apostolique. Alors, c'est intéressant de voir ça et de se demander comment pouvons-nous répondre à ce changement. C'est la seconde question, mais c'est une question très importante. Nous pouvons répondre à ce changement en développant nous-mêmes philosophiquement ce qu'est la personne. Si nous ne développons pas ce qu'est la personne et que nous restons uniquement au niveau nature, on risque d'augmenter le précipice qui sépare ce que nous faisons et le monde. Vous voyez, c'est pour ça que, pour moi, personnellement, c'est un problème crucial, ça. Le passage de la nature à la personne. Le passage de la personne à la nature. Et le voir avec profondeur. Il ne faut surtout pas ossifier, formaliser la personne contre la nature. Toute personne implique la nature. Mais c'est au niveau des finalités que nous voyons la différence. Notre nature a une finalité propre. Autrement, elle ne serait pas une nature. Et notre personnalité a une finalité propre. Alors, si on ne voit pas ce problème des finalités, c'est sûr. Formellement, la nature fait partie de la personne. Oui, la fameuse définition de Boès, hein. Nous allons la voir du reste. Hein. Voilà pourquoi dans la définition de Boès, on dit la substance individuelle, puisque personne signifie le singulier du genre substance, et on ajoute de nature rationnelle. Dont la substance individuelle de nature rationnelle, puisqu'elle signifie le singulier dans les substances raisonnables, de nature raisonnable. Alors, la nature rationnelle, la nature raisonnable, la nature raisonnable, implique l'intelligence. Donc, vous regardez la nature et l'intelligence. La nature, je peux la regarder indépendamment de l'intelligence. Et je peux regarder la nature transformée par l'intelligence. Bon, la personne, c'est la nature transformée par l'intelligence. Mais la nature est présente dans la personne, c'est évident. Opposer la personne, c'est l'opposition qui se fait entre nature et personne est une opposition fausse. Ce sont les modernes qui font ça. Mais il faut bien voir la différence de la nature et de la personne par la finalité. Et au fond, quand je compare nature et personne, il y a deux obstacles, un obstacle de droite, un obstacle de gauche. L'obstacle de gauche, c'est de dire la personne se développe indépendamment de la nature. L'obstacle de droite, la personne ne peut pas se développer sans la nature. Ces deux genres de types humains existent aujourd'hui. Les chrétiens de gauche, les chrétiens de droite. De droite, les conservateurs. Et au fond, la position différente des deux provient de ça, des rapports de la nature et de la personne. Il faut le savoir. Et si on veut ne pas être partisan, il faut avoir une vision juste de la nature et de la personne. Et de comprendre que la nature fait partie de la personne, mais que la personne développe pour elle-même la finalité. La nature suit, c'est évident. Je n'abandonne pas ma nature humaine. C'est pas parce que je dis que ma finalité, c'est de voir Dieu, que je laisse de côté ma nature humaine. Non, tais-toi. Ça ne te regarde pas, ça. C'est un dépassement de la nature. C'est quelque chose que la nature n'explique pas. Vous ne pouvez pas expliquer par la nature la vision béatifique. Impossible. Et c'est toujours ce que vous devez fourrer dans les pattes de ceux qui veulent exalter la nature. Mais acceptez quand même le dépassement de la nature. Je comprends très bien que vous parliez beaucoup de la nature aujourd'hui. C'est utile, comme on la déconsidère. Mais ce n'est pas parce qu'on la déconsidère qu'il ne faut plus regarder la personne. Ce n'est pas parce que Thomas d'Aquin a parlé de la personne de son temps qu'on ne doit pas regarder le développement de la personne chez tous ces philosophes modernes. Et en scolastique, on ne parle pas de la personne. J'ai fait toute ma philosophie sans me dire, sans me montrer nature et personne. On prenait la définition de Boès. Dans la définition de Boès, substance individuelle d'une nature raisonnable, d'une nature rationnelle. Et jusqu'au bout, nature rationnelle. Alors, nature rationnelle, c'est quoi ? C'est l'intelligence. Alors que si je veux saisir ce qu'il y a de caractéristique à la personne, je regarde la finalité. Et là, je mets en lumière ce qu'il y a de propre à la personne. Mais mettre en lumière ce qu'il y a de propre à la personne, ce n'est pas du tout supprimer la nature. C'est au contraire montrer que la nature, dans son développement, atteint la personne.
Après, il y a une autre question qui porte plus sur la connaissance. Vous avez parlé des cinq sens et les cinq modalités de l'abstraction en disant qu'on peut trouver ces cinq modalités dans notre expérience par le biais des cinq sens. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'analogue pour les vertus théologales ? La question du frère porte sur la connaissance univoque et la connaissance analogique. Et il voudrait savoir, lorsqu'on fait un rapprochement entre les cinq sens et les cinq modalités des universaux, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'analogue au niveau des vertus théologales ?
Non. Les vertus théologales viennent d'en haut, les vertus viennent d'en bas. Les vertus théologales sont libres par rapport aux cinq sens. Parce que ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, comme je les reçois, c'est sûr, je les reçois en fonction de ma personne. Et donc, le développement différent d'un artiste peintre, différence d'un artiste musicien, différence d'un artiste qui est architecte, c'est sûr que le développement de l'art me permet un développement différent de ma personnalité. Et ceci parce que le développement différent de l'art met en lumière tel ou tel sens. Mais l'art ne s'explique pas par le développement de ce sens, mais s'explique par l'intelligence. Et l'intelligence se trouve dans tous les arts. Et ce n'est pas l'intelligence qui me permet de voir la diversité des arts, mais c'est le lien de l'intelligence avec les sens externes. Alors, le développement surnaturel se fait par la docilité à la parole de Dieu. La docilité à accepter la volonté du Père. C'est donc par le haut. Mais c'est sûr que la foi et l'exigence de la foi va prendre des caractères différents chez le peintre ou chez l'homme prudent. Mais cette diversité se prend à partir de celui qui a reçu cela, et non pas à partir du développement propre de ma foi. Vous voyez, le développement propre de ma foi vient de Dieu et mon concours avec Dieu. Donc, le développement propre de la foi est toujours le même. Il n'y a pas une sainteté du peintre, une sainteté de l'architecte, une sainteté du musicien. Mais il y a un exercice différent de la sainteté. Mais spécifiquement, c'est la même sainteté. Et vous voyez ça ou non?
Si, si, père.
Quoi?
Très bien. Je crois que la question du frère, sans doute, c'était de faire un rapprochement entre les vertus théologales et les vertus morales acquises.
Ah, oui, le rapprochement des vertus théologales. Mais il ne faut pas faire le rapprochement. Les vertus théologales viennent d'en haut. Elles viennent de Dieu. Foi, espérance, charité. Alors, vous me dites, ah, ça dépend quand même, nous, nous avons l'intelligence à vous. Oui, mais foi, espérance et charité, tiens, ils sont trois, et on a intelligence et volonté, deux. Alors, vous voyez bien que les vertus théologales, venant d'en haut, c'est Dieu qui nous éduque. L'éducation du Saint-Esprit n'est pas la même éducation que de notre mère. L'éducation du Saint-Esprit éduque la foi, l'espérance et la charité à partir de la parole de Dieu. Alors, quand je dis foi, espérance et charité, je ne dis pas foi, espérance et charité à cause de l'intelligence et de la volonté. Qu'est-ce qui a fait la différence entre la foi, l'espérance et la charité? D'où ça vient? Est-ce que ça vient du Saint-Esprit ou est-ce que ça vient de votre nature humaine? Alors, c'est sûr, Dieu s'adapte merveilleusement à la nature humaine, mais attention, les intentions de Dieu ne s'arrêtent pas à une adaptation parfaite à l'égard de notre nature humaine. Les intentions de Dieu sont finalisées par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Dieu veut que je sois un croyant, quelqu'un qui espère et quelqu'un qui aime. Alors, il faut donc, puisque c'est Dieu qui m'a créé, qu'il y ait une possibilité de recevoir la foi, possibilité différente pour recevoir la foi que pour recevoir l'amour, que pour recevoir l'espérance. Et je vois alors, à partir des trois vertus théologales, ma psychologie à moi, pour l'intelligence, de la foi, pour le fonctionnement de l'espérance, qu'il s'agisse de la volonté, qu'il s'agisse de l'amour. Oui. Tu vois, c'est, je crois, ça très important quand même de comprendre que les vertus théologales viennent de la grâce. Et la grâce vient d'en haut. Et non pas d'en bas. Il faut naître de nouveau. Et c'est une naissance qui vient de l'Esprit-Saint. Ce que Nicodème dit à Jésus. Et naître d'en haut. Ben, naître d'en haut, c'est justement une naissance qui se vient à partir de Dieu, et non pas à partir de nous. Vous voyez, ce serait le psychologisme, là. Le psychologisme voudrait tout expliquer par nous. Alors, il n'expliquera pas les trois vertus théologales psychologiquement. Les trois vertus théologales s'expliquent par une adhésion à l'action de l'Esprit-Saint sur moi. Et l'Esprit-Saint s'est trompé parce qu'il aurait dû agir uniquement intelligence et volonté. Il met un troisième membre, on ne sait pas trop pourquoi, espérance. Mais il n'y a pas de faculté pour l'espérance, c'est embêtant. Et saint Thomas est obligé, quand il voit l'espérance, de prendre la passion. Parce que vous n'avez pas une troisième vertu. C'est ennuyeux, ça. Saint-Esprit s'est trompé. Il nous a mis une chemise qui était en réalité pour l'ange. Parce qu'il a mis trois vertus théologales. Il y en a uniquement intelligence et volonté. Donc, en voyant être trouvé du tout légal, il s'adressait à quelqu'un qui avait une intelligence, une volonté et une espérance. La faculté d'espérance.
Elle s'enracine dans la volonté, Père, l'espérance. Quoi? L'espérance s'enracine dans la volonté.
S'enracine dans la volonté, mais ce n'est pas la volonté. Et en fait, on sent très bien que saint Thomas est très gêné quand il fait son traité de l'espérance. Et je comprends très bien, il est très gêné. Parce que on ne sait pas quoi en faire. Lisez Peggy, la petite espérance, hein, je ne sais pas quoi en faire. La foi très bien, la charité très bien, mais l'espérance. Parce qu'il n'y a pas le support naturel et psychologique. Alors on est très gêné. Je crois qu'il faut sentir ça. Alors, c'est fini.
On la posera la fois dernière, Père.
Quoi? On était resté la dernière fois.
Oui. La fin, c'est une petite question sur concernant le début de la vie.
Ah, oui.
Vous aviez
Mais c'est important, ça. Alors, qu'est-ce qu'il posait la question sur le début de la vie?
Vous avez dit que, lors du dernier cours, que pour certaines traditions religieuses, l'âme et le sang étaient la même chose. Je me pose la question par rapport à l'avortement, car vous avez dit que... Enfin, vous avez souligné qu'au fond, il y a une autonomie chez le fœtus lorsqu'il y a une différenciation du cycle sanguin de l'enfant de celui de sa mère. Et que le fœtus n'est pas animé, on ne peut pas savoir, on ne peut pas affirmer avec exactitude qu'il est immédiatement animé. Il faut nécessairement une différenciation. Et le frère voudrait savoir si cette raison de convenance qui demande qu'on attende qu'un corps soit organisé ne laisse pas place à une possibilité pour l'avortement.
Il me semble rappeler que je disais, on ne peut pas prouver d'une façon philosophique et d'une façon théologique quand l'âme est créée par Dieu. Alors, il y a en nous une puissance générative. La puissance générative de nous est comme celle de l'animal. Analogue. Donc, elle doit servir à quelque chose. Si l'âme humaine faisait tout, pourquoi Dieu nous aurait-il donné une puissance générative? C'est la nature, ça. Le sommet de la vie végétative, c'est justement cette puissance générative. Et cette puissance générative fait partie de la définition de l'homme, de sa nature. C'est donc quelque chose d'essentiel, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, c'est très vrai que la puissance générative n'explique pas le don de l'âme. La puissance générative est donc ce qui dispose à recevoir l'âme. Et à un moment donné, puissance générative et âme humaine coopèrent à la formation du fœtus. Alors, la question délicate, et je reçois chaque année des lettres de ceux qui affirment que l'âme est créée tout de suite, dès le premier moment de la conception, en disant, mon père, pourquoi ne dites-vous pas ça? Parce que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus vrai. L'Église, pendant de longues années, n'a pas précisé quand l'âme était créée. Elle ne l'a même pas précisé maintenant. Le Saint-Père, dans son encyclique sur la vie, dit que nous ne savons pas quand l'âme a été créée. Nous savons philosophiquement et théologiquement que l'âme est créée. Ça oui, nous sommes tous d'accord de l'affirmer. Mais quand elle est créée, nous ne savons pas. Alors, actuellement, une série de philosophe très de droite, c'est-à-dire très profondément chrétien, peut-être de trop, disent l'âme est créée tout de suite, dès la conception. De sorte que l'avortement, c'est vraiment aller contre la vie de l'enfant. Tandis que si vous dites que l'âme n'est pas créée tout de suite, qu'il y a d'abord la disposition de la virtus generativa, la virtus generativa, c'est le pouvoir de l'homme et de la femme d'avoir des enfants. C'est la virtus generativa, c'est une faculté. Alors, cette virtus generativa peut-elle me donner l'âme ? Non. L'âme est créée directement par Dieu. C'est ça qui est affirmé par l'Église. Et c'est ça que, de fait, le philosophe peut affirmer aussi. L'âme existe chez un petit enfant qui est né. Il est né avec son âme. Il y a donc en lui quelque chose qui dépasse la virtus generativa et qui vient directement de Dieu. C'est son âme. L'âme est créée par Dieu directement, sans instrument. Ça, c'est une affirmation très nette, philosophique, et que l'Église nous demande de maintenir. Là-dessus, c'est très net. À quel moment l'âme est créée par Dieu? Le Saint-Père lui-même, dans son encyclique sur la vie, dit qu'on ne sait pas. Donc l'Église, dans son enseignement, dit « nous ne pouvons pas le savoir ». Si vous regardez le développement de l'embryon, actuellement, comme on a photographié tous les moments du développement de l'embryon, on a presque, on ne l'a pas, on ne va pas voir la photographie du développement. On a tous les moments. Et on ne peut pas dire, en regardant tout ce développement, d'une façon sûre, l'âme est créée à tel moment. La création donc de Dieu s'est faite à un moment. Alors, la discussion est là-dessus. Oui, c'est de voir à quel moment l'âme est créée. Je crois qu'on ne peut pas scientifiquement savoir à tel moment. Oui, pourquoi dit-on Dieu est un Dieu caché? Dieu est un Dieu caché parce que ce don de l'âme, qui est quand même la plus grande des merveilles et la plus grande des miséricordes, elle nous échappe. On ne sait pas quand. Alors que si Dieu voulait manifester sa toute-puissance, il nous montrerait, ah, voilà, à ce moment-là, je crée l'âme. Si on regarde attentivement, on ne peut pas le savoir. Mais cependant, nous savons qu'il y a un moment où Dieu a créé, donc. Personne ne refuse que Dieu a créé l'âme. C'est la question du moment. Alors, Certains affirment que l'âme est créée dès le point de départ de la conception. Alors, il y a une très grosse difficulté à ce moment-là, c'est la question des jumeaux. Parce que si l'âme est créée tout de suite, c'est une âme seulement. Et il fallait que Dieu crée les deux, puisqu'il y a jumeaux. Or, du point de vue du jumeau, c'est la division qui s'opère, pas premièrement, en second lieu. Donc là, il y a déjà une difficulté. C'est pas commode. La question de ceux qui affirment que la création de Dieu est immédiate dès la conception, c'est pour aller dans le sens le plus fort contre l'avortement. Alors, je dirais là, attention. C'est une fausse conception du péché. Le péché est dans l'intention. Il n'est pas dans l'acte. Il est dans l'intention, le péché. Vous avez l'intention de tuer quelqu'un et que vous n'y arrivez pas, vous avez quand même tué cette personne. L'intention. Alors, le fait que celui qui avorte en disant « bon, ce fœtus, tant pis, il est fait pour être un homme, selon l'intention de Dieu. Il est fait pour être un homme. Du fait qu'il est fait pour être un homme, si je le supprime, je supprime un homme. » Toute la question est là-dessus. Tandis qu'eux ont une conception, je dirais, positiviste du péché, oubliant que le péché est d'abord dans l'intention. S'ils avaient fait une bonne morale, ils sauraient que le péché est dans l'intention. Et non pas dans la matérialité de la chose. La matérialité de la chose, c'est que je vois toutes les conséquences. Mais le péché est dans l'intention. Si j'ai l'intention de supprimer un fœtus humain, même si l'âme n'est pas là, je tue un homme. Parce que le péché est dans l'intention. Alors je crois que c'est un peu cette conception des chrétiennes droites de voir que le péché de l'avortement, c'est la suppression d'un homme, et que le fœtus est déjà un homme, alors que le fœtus est une promesse d'un homme. Il y a l'intention, et une intention sérieuse. Dieu le veut, Dieu a voulu ça. Et donc, au point de vue péché, au point de vue pécamineux, on tue un homme si même l'âme n'est pas là. Parce qu'on tue le fœtus qui, selon la loi naturelle, est ordonné à être un homme. Et, au fond, la position apologétique de ceux qui veulent que l'âme soit créée tout de suite, c'est à cause de ça. Alors je dis ça, c'est pas bien, c'est pas vrai, c'est pas réaliste, c'est pas juste. C'est une position moraliste et qui affirme quelque chose pour éviter le péché. Mais le péché n'est pas évité. Vous supprimez quelque chose qui doit être un homme. Pour la fois prochaine, on avancera. Je crois que c'est nécessaire que toutes ces questions soient liquidées, parce que c'est les questions devant lesquelles on se trouve. Et il faut être très net, et l'Église est très nette là-dessus. Mais c'est sûr qu'on doit comprendre que la vision du péché, c'est moral, c'est l'intention. L'acte humain est premièrement dans l'intention. L'acte humain est l'exécution, mais c'est second. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.